Bon après-midi, mesdames et messieurs. Cette séance sera consacrée à la mémoire d'une femme d'action, Louise Fitzgerald Corti. J'aimerais remercier sa fille, Dominique Corti, qui est dans la salle, en quelque part. Si elle pourrait se lever ou lever la main. J'aimerais remercier Dominique pour différentes raisons. Premièrement, pour avoir rendu un petit vidéo disponible. Et aussi, parce que dans sa tendre enfance, elle a dû accorder beaucoup du temps de sa mère, alors que sa mère travaillait à l'hôpital, plutôt que de passer des heures et des heures avec Dominique. Pourrait-on montrer le vidéoclip? Un grand coup personnel, cet étonnant médecin canadien a changé la vie de milliers d'Africains. Pendant 20 ans, elle était la seule chirurgien dans une population de 2 millions de personnes, la seule qui avait la formation nécessaire pour faire certaines opérations. Lucille Teasdale et son mari d'origine italienne, M. Piero Corti, ont construit un hôpital à partir de rien dans l'Ouganda rural. En 35 ans, ils sont passés d'un petit dispensaire à un hôpital de 500 lits. Lucille Teasdale avait de grandes réserves d'énergie. Elle a performé plus de 13 000 opérations dans sa vie, plusieurs pendant la terrible guerre civile en Ouganda. Elle était là, elle avait un but, elle voulait aider les gens, et rien n'allait l'amener à abandonner ces gens en disant « je dois m'occuper de moi-même et de ma famille et avoir ma propre vie ». Ça ne faisait pas partie de ses projets. Je crois qu'elle avait une vision. Celui de construire un hôpital qui offrirait des soins adéquats, mais qui serait tout à fait abordable pour la population locale. Parfois, elle voyait 300 patients, et après 20 admissions, la chose surprenante, c'est ce que se rappelait de toutes les personnes qui étaient admises dans toutes les différentes ailes de l'hôpital. Malgré sa maladie, elle a visité le monde avec Pierrot et cherchait désespérément à recueillir de l'argent pour leur hôpital alors qu'elle en avait encore la force. Bien que le sida faisait son œuvre, Lucie Tisdale n'avait pas abandonné sa mission. Lorsque je n'ai pas un épisode d'actif d'une infection, je me sens très bien, j'ai pu faire mon travail sans problème. Vous savez, après 34 ans, on ne veut pas penser que notre travail va disparaître si on abandonne. Bien que nous travaillions depuis des années pour préparer les gens à reprendre après notre départ, bon, ce qu'on fait maintenant, on a terminé l'immeuble, on a préparé les gens locaux à prendre le contrôle de l'hôpital, et ce sont maintenant des gens qui peuvent continuer à travailler professionnellement sans nous. Mais ils ont quand même besoin de notre aide pour des raisons économiques, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'argent pour faire fonctionner l'hôpital, c'est très cher. Donc ils ont encore besoin de notre aide pour s'assurer que l'hôpital va survivre une fois qu'on sera disparu. Deuxièmement, me retirer, prendre ma retraite pour faire quoi? Pour rester à la maison sur une chaise berceuse? Non. Le docteur Lucille Teasdale est morte en Italie en 1996. Mais selon ses voeux, elle est enterrée en Afrique, en Ouganda, en paix pour toujours parmi les gens qu'elle aimait et dont elle s'était occupée. Lucille, la David, le modèle de Lucille Tisdale Courtsy est un modèle que plusieurs d'entre nous essayons de suivre. Et ça, depuis, c'était que si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Comme vous l'avez vu dans cette vidéoclip, nous sommes fiers en tant que Canadiens. Nous sommes fiers de cette femme canadienne qui a travaillé très fort avec son mari Pierrot pour transformer un hôpital de 30 lits en un des plus grands hôpitaux et des plus renommés de l'Afrique tropicale. Après avoir contracté le VIH en opérant, elle a continué à travailler jusqu'à sa mort le 1er août 1996. Elle n'a jamais défailli, elle n'a jamais considéré sa maladie comme étant une nuisance, mais plutôt comme étant un risque professionnel. Donc, cette session est consacrée à la mémoire de Louise Tisdale, mais aussi à celle des autres gens qui ont consacré leur vie à la lutte contre le VIH et le SIDA et qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Sa contribution continue grâce à un partenariat entre DRC et quatre autres organismes canadiens qui financent la continuation de la recherche internationale. Mon nom est Liviana Casivara. Je suis la coprésidente scientifique pour la 16e conférence internationale sur le SIDA. Bienvenue à Toronto et au Canada. Depuis la 14e conférence internationale à Durban, le monde s'est réveillé à l'énormité de ravages causés par le SIDA en Afrique, tant sur les plans humains, économiques et sociaux. Je suis également très, très conscient du fait que dès le milieu de l'année 80, il y avait des indicateurs de la tragédie qui venaient et plusieurs supplications étaient ignorées. Cette séance va se concentrer sur les régions et les pays où le SIDA ne fait que commencer à apparaître, ou encore là où il est déjà apparu, mais où il est encore temps de pouvoir réduire et limiter son impact, de sorte à ce qu'on ne parlera pas d'autres pays de la même façon qu'on parle du continent africain aujourd'hui. Donc le but de cette séance, c'est de sensibiliser le monde à l'épidémie émergente dans des pays tels que la Chine, l'Inde et l'Europe de l'Est. On veut également discuter de la manière de préparer une réponse efficace, créer une situation où le gouvernement et la société civile peuvent travailler ensemble pour minimiser les impacts négatifs. Nous avons trois conférenciers invités, le Dr Wu, le Dr Petro Pokrovski, le Dr Kumar. Chacun nous parlera un peu de l'épidémie dans leur pays. Et ensuite, nous aurons l'occasion de voir la séance modérée par le Dr Sheila Bazer et aussi d'entendre vos commentaires et vos questions et vos idées. Nous voulons trouver des moyens qui nous permettront de progresser et puis d'élargir notre réaction au VIH dans ces pays et dans d'autres pays semblables. J'aimerais commencer la séance en invitant le Dr Wu, professeur et directeur du service des comportements et du contrôle du VIH en Chine. Il parlera du VIH-Sida en Chine, tendance, leçons, principaux défis et possibilités pour élargir notre réponse. Dr Wu. Bonjour, bon après-midi. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais partager avec vous l'expérience chinoise et vous parler d'un... Et vous verrez que les trois pays ont le même titre. Je n'ai pas avoir le même titre que les autres, donc j'ai modifié mon titre un peu pour rappeler ma présentation VIH-SIDA. La Chine agite et relève le défi de l'élargissement de la réponse. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Chine, voici quelques informations. La Chine est le pays le plus populaire au monde. Il a 1,3 milliard d'habitants. Le taux d'infection total est assez faible, 0,05%. Si cette prévalence triple, c'est toujours très très faible. Ça deviendrait 0,15%. Mais ceci voudrait dire 1,3 million d'infections. Si le taux d'infection passe à 4%, c'est encore très faible comme prévalence, mais néanmoins, cela veut dire qu'il y aura 52 millions d'infections. Ça, c'est plus que le nombre total d'infections du VIH dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez voir jusqu'à quel point il est important pour la Chine de bien contrôler son épidémie. Et ceci sera et fasse partie de la réponse mondiale au sida. Vous voyez ici très brièvement un historique de l'épidémie en Chine. Le premier cas rapporté date 1985. Lors de la première épidémie réelle s'est produite en 1989 parmi les utilisateurs de drogues injectables dans le sud-ouest de la Chine, dans la Yunnan. En 1995, parmi les utilisateurs de drogues injectables, était limité à la province de Yunnan. Mais après 1995, elle se répand à l'extérieur de Yunnan. Et aussi en 1995, on a la première éruption d'une épidémie de VIH parmi les donateurs de plasma commercial. Ceci a été bien couvert par les médias internationaux.
En 1998, toutes les provinces ont rapporté une épidémie. L'an dernier, nous avons déterminé qu'il y a 650 000 cas d'infection. Cette diapo vous fait la répartition géographique. Il y a deux provinces les plus durement touchées, le Yunnan d'abord. C'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de drogues injectées dans cette province. L'autre, il s'agit de la province de Henan. Et là, c'est une question de plasma qui a été donné, plasma sanguin. Si vous regardez sur ces deux diapos, la diapo de gauche ou la coordonnée cartésienne de gauche, elle est très trompeuse. Ça ne reflète pas les tendances de l'épidémie. Ça reflète le nombre de personnes qui ont été testées. Plus on teste de gens, plus on trouve et on signale d'infections. L'augmentation s'explique parce que s'explique par la campagne menée par le gouvernement pour dépister. Deux épidémies se sont produites, une au milieu des années 90. Et là encore, c'était occasionné par le don de plasma et de sang, la cueillette du sang. La seconde crise, qui croît de plus en plus, lentement mais sûrement, c'est une crise qui s'explique par le contact sexuel et l'usage de drogues injectées. Pour la première vague, la première crise, nous l'avons presque contrôlée. Il n'y a pas de nouvelles infections. Mais pour la deuxième vague, c'est vraiment un défi pour nous d'essayer de prendre le dessus et maîtriser cette situation. Ici, nous voyons, répartis proportionnellement, la répartition des gens qui sont infectés. La majorité s'explique par l'utilisation de drogues injectées. Les contacts sexuels expliquent environ 9% des cas. Il y a environ 25% qui sont de causes inconnues. Et 8,9% s'expliquent par des contacts sexuels. L'an dernier, nous avons fait une nouvelle estimée. En 2005, nous avons décompté 70 000 nouvelles infections à chaque année. Si on calcule ça sur une base quotidienne, nous avons 192 nouvelles infections par jour. Parmi ces nouveaux cas, presque 50% sont causés par le contact sexuel. Et quand je parle de contact sexuel, ça veut dire que la personne infectée transmet par contact sexuel à leur époux ou leur conjoint. Ou ça s'explique aussi par les contacts sexuels entre hommes ou par les activités sexuelles commerciales. Un autre 48,6% s'explique par l'utilisation de drogues par intraveineuse. Et la transmission de mère à l'enfant compte pour 1,6% des nouveaux cas rapportés. Le gouvernement chinois s'est engagé à combattre le VIH-Sida en 2004. Le Conseil d'État pour le SIDA a mis sur pied un groupe de travail et plusieurs comités de travail provinciaux aussi. Le gouvernement a apporté un financement majoré de beaucoup à cette fin. Et aussi, on a fait une campagne pour essayer de réduire la stigmatisation des gens qui souffrent du VIH-Sida. L'an dernier, nous avons fait la plus grande vidéoconférence au monde. Au total, nous avions des centaines de milliers de responsables gouvernementaux et Mme Huyi a fait un discours. Et dans le cadre de ce discours, elle a dit l'intervention, maintenant, c'est prouvé et l'intervention est nécessaire et fonctionne. Un programme de maintien sur le méthadone, l'éducation, un programme d'échange d'aiguilles, d'injections propres et l'éducation. Elle disait, il n'y a plus de débat, il est trop tard pour ça, il faut mettre en œuvre le programme immédiatement. Aussi, le gouvernement chinois apporte un soutien par le biais biais législatif et par ses politiques aussi. Nous avons une politique qu'on appelle « Four Free and One Care ». Les programmes de traitement et le dépistage sont gratuits. Le gouvernement aussi a lancé un cadre réglementaire pour le SIDA cette année, au mois de mars. Par ceci, on identifie les responsabilités de chaque niveau et chaque instance du gouvernement et les actions qui sont nécessaires pour contrôler la transmission du VIH. Et aussi, la loi prévoit l'interdiction de la discrimination contre les gens vivant avec le VIH-Sida et leurs familles. Aussi, cette année, le gouvernement a mis au point un plan pour les 5 prochaines années. Il y a aussi une loi concernant les maladies infectieuses. Et toutes ces lois font en sorte de protéger la nature confidentielle des informations. Pour contrôler l'épidémie, pour mettre en place une infrastructure à cette fin, le gouvernement chinois a créé plus de 3000 cliniques pour le testing, le dépistage et le traitement volontaire. Plus de 3756 laboratoires de dépistage et des laboratoires de confirmation au nombre de 57. Une stratégie que nous avons mis au point depuis 2 ans, c'était de lancer cette campagne de dépistage. Bon, on sait comment le VIH se répand. De façon très subtile. Les gens ne savent pas qu'ils sont infectés. Tout ça est très sournois, très silencieux. Les gens infectent les autres sans le savoir. Une stratégie importante, c'est d'identifier les gens qui sont infectés et leur offrir un service qui vise à réduire le taux de transmission et aussi, bien sûr, à tenter de traiter les personnes qui sont déjà infectées. En 2004 et 2005, plutôt, dans le cadre de notre campagne de dépistage, je pourrais vous parler de 2 façons qui montrent les bienfaits de cette campagne. En Yunnan, dans les années entre 1987 et 2004, sur une période de 18 ans, on a identifié 14 905 cas. Lors des 6 mois de dépistage intensif, nous avons identifié 13 486 cas d'infection. dans la province du Henan sur une campagne de dépistage intensive chez les anciens donateurs de plasma. Nous avons identifié 6 fois plus de cas que lors des 10 ans antérieurs. Dans cette campagne, nous avons identifié 12 259 couples qui sont sérodiscordants. Un des experts en la matière pour pouvoir mieux gérer ce problème, le gouvernement a mis au point un système de signalement en continu. Par exemple, si si quelqu'un dans une province lointaine trouve un cas de sida ou de VIH à déclarer, celui-ci peut être acheminé, signalé par le biais du site web du gouvernement. Nous avons mis au point des nouvelles stratégies pour répondre à cette épidémie. Tout d'abord, le dépistage, c'est le point d'entrée, la porte d'entrée qui mène à la prévention et au traitement. L'autre stratégie, c'est d'élargir nos interventions, mettre au point des programmes préventifs à large échelle, dont la promotion de l'utilisation des condoms, un programme d'échange d'aiguilles et un programme de méthadone comme substitut à l'héroïne. Aujourd'hui, la campagne de promotion du condom couvre 1800 comtés. Pour les cliniques de substitution de méthadone, 101 cliniques sont déjà en marche. Nous aurons 305 de ces cliniques au mois de septembre 2006 et plus de 1000 d'ici 3 ans. Pour ce qui est du programme d'échange d'aiguilles, présentement, nous avons 92 centres qui sont ouverts déjà et 1400 sont prévus pour les 3 prochaines années. Pour ce qui est du traitement antirétroviral, nous avons élargi notre intervention. Depuis 3 ans, le nombre de personnes qui reçoivent le service a augmenté de façon importante. Maintenant, nous avons au total 26 000 personnes qui sont inscrites au programme de traitement antirétroviral. Et vers la fin de cette année, ce nombre passera à 30 000 personnes. Nous traitons aussi 600 enfants qui vivent avec le sida. Et ça, d'ici la fin de l'année. J'aimerais vous parler maintenant du programme de maintenance sur la méthadone comme substitut. C'est un programme, ça, qui apporte plusieurs bienfaits autres que la réduction ou la prévention du VIH, la transmission du VIH. Ça augmente la qualité de vie pour la personne qui utilise les drogues par injection. Ça réduit aussi le crime lié à l'usage des drogues. Nous avons comparé les gens qui sont inscrits au programme et le taux d'incidence parmi les utilisateurs qui s'injectent. Ce taux est de 0%, alors qu'il y a un taux de 5% de nouvelles infections de VIH ou d'incidence d'infection de VIH pour ceux qui ne font pas partie du programme MMT, programme de méthadone. Nous avons prévu que le nombre de centres pour ce traitement de substitution va passer à 305 centres d'ici le mois de septembre 2006. Mais le ministre de Sécurité publique a dit non, on peut pas faire ça. Vous devez ouvrir 305 cliniques d'ici la fin de septembre. Donc, nous avons devancé de quelques mois cet objectif. En ouvrant plus tôt ces cliniques additionnelles, ça va prévenir 216 nouvelles infections qui vont réduire l'usage aussi ou le commerce de l'héroïne de façon importante. Ça va faire en sorte que 50 millions de dollars US de commerce et de trafic d'héroïne va être éliminé. Nous suivons le principe de la réduction des préjudices. Pour ce qui est du programme de méthadone, Nous cherchons à réduire la criminalité liée aux drogues, l'usage de la drogue elle-même, l'épidémie, le sida aussi lié à l'usage de drogue. Et ça reflète bien les visées des politiques du gouvernement chinois que de avoir une société plus harmonieuse, de réduire l'incidence de trafic de drogue. Donc, ce programme de MMT doit être élargi autant que possible. Le programme d'échange de aiguilles d'injection va être de seringue, va être un substitut au MMT seulement là où la méthadone ne sera pas disponible. Il y a aussi une intervention nécessaire pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et c'est un groupe très dynamique, cette communauté. Ce que nous avons fait, c'est de tenter de travailler avec les diverses communautés d'hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Un autre problème qu'on a dû surmonter, c'est la proportion des gens qui sont infectés et dépistés et sujets aux soins en ce qui a trait au VIH. Seulement une petite proportion des gens qui étaient infectés ont été testés, et de ces gens qui ont été testés, seulement une petite proportion ont reçu un traitement par la suite. Si on ne change pas ces proportions, nous ne pourrons jamais gagner la guerre contre le sida. Si on examine ça, ici, il s'agit du groupe des anciens donateurs de sang, de plasma. Presque 90% de ces personnes-là maintenant participent au traitement. Pour ceux qui utilisent des drogues par intraveineuse, une moins grande proportion participe. Si on regarde ceux qui ont été infectés par contact sexuel, la grande majorité reste non dépistée pour l'instant. Pour ce qui est de gérer tous ces cas, c'est vraiment problématique. Un exemple. Dans une ville de Yunnan, nous avons signalé 674 personnes infectées. Et seulement 60 personnes infectées ont un contact avec le système de santé pour recevoir des services. Presque 900 de ces personnes sont des gens pour qui on n'a aucun contact, aucun détail, aucune adresse fixe. Et la majorité de ces gens, donc, ne peuvent pas obtenir de services de suivi de la part des services de santé. Donc, pour gérer, nous avons trouvé quelques stratégies. On veut établir une chaîne qui part de l'identification des cas jusqu'aux services de suivi pour pouvoir faire un monitoring des cas. Nous avons comme but, d'ici 2010, la Chine va limiter le nombre de gens vivant avec le VIH-Sida au nombre de 1 500 000 et non plus. Nous allons travailler très fort, nous allons élargir tous nos efforts et les intensifier pour arriver à cet objectif. Mais nous avons besoin de votre sagesse, de votre soutien, de votre connaissance pour accomplir cet objectif. Je vous remercie beaucoup. Merci, Dr. Wu. C'était très impressionnant de voir à quel point la Chine a été rapide pour réagir et élargir, intensifier tous ses efforts pour combattre le VIH-Sida. J'aimerais maintenant vous présenter le docteur Vadim Prokhorovsky, qui est académicien et directeur du Centre fédéral VIH-Sida à Moscou, en Russie. Le docteur Prokhorovsky va nous parler de l'épidémie VIH-Sida en Russie, et de son apprise, les défis qu'on doit rencontrer dans ce pays et les occasions qui se présentent pour élargir et intensifier les efforts. Bonjour, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine du VIH et j'aimerais commencer ma présentation avec une historique très bref de du VIH en Russie. Le premier cas a été signalé en 1987. Mais sur les 10 ans suivants, il n'y avait aucune preuve ou indice d'une épidémie en Russie. C'est seulement vers la fin des années 90 que la véritable épidémie russe du VIH a commencé. C'est en 2001, 80% des... Il y a eu plus de 80 000 nouveaux cas qui ont été signalés seulement dans l'année 2001. Et le prognostic était très pessimiste. Par exemple, à ce moment-là, le U.S. National Intelligence Council disait que la situation était si grave que peut-être jusqu'au nombre de 8 millions de Russes seront possiblement infectés vers l'an 2010. Donc, ce prognostic signifiait qu'environ 10% des Russes seraient infectés. Je ne peux pas dire que c'est un pronostic très scientifique, mais pour militer contre le sida, pour faire la promotion de la lutte contre le sida, ça a été très positif pour nous. Parce qu'à ce moment-là, c'était la reconstruction. Il y avait des bouleversements en Russie et on portait beaucoup plus d'attention au programme économique et à une refonte politique. Et l'HIV sida, bien sûr, était à l'arrière-plan. Mais nous avons tenté de créer notre propre pronostic. Le mien, par exemple, pour l'avenir, pour ce qui est de l'épidémie russe. Mon pronostic, donc, était axé sur qu'il y aurait une saturation de 50% de VIH chez les utilisateurs de drogue injectée. Et on sait que dans bien des pays, la saturation, le niveau normal de saturation se trouve à 50%. Mais je craignais qu'il y ait cette seconde vague de l'épidémie causée par les contacts sexuels. Ça veut dire que cette seconde crise causée par les contacts sexuels apporterait un autre 2 millions d'infections en Russie. Donc, nous avions deux pointes dans le taux d'incidence du VIH qui était prédit. Le premier était prédit pour le début de ce siècle et l'autre était prévu pour 5 ans plus tard. Mais on s'est dit que ça n'allait pas être la fin de l'épidémie pour autant. Et après ces deux pointes, qu'il y aurait après ces deux pointes, ces deux crises, une longue période d'infection. Donc on avait prévu cette première pointe qui s'expliquait par l'usage de drogue intraveineuse et cette seconde crise ou pointe de taux d'incidence qui s'expliquait par les contacts sexuels. Dans ce pronostic, le nombre total de Russes séropositifs vivants allait passer à 2,5 millions de personnes en 2020. Et s'il n'y a pas de traitement antirétroviral, plus de 1,2 million de séropositifs mourront d'ici 2020. Mais bon, quelle est la situation? Ça, c'était le pronostic. Quelle est la situation qui prévaut en ce moment en Russie exactement? Après l'an 2000, il y a eu cette décroissance du nombre des nouveaux cas. On a vu une décroissance. Mais le nombre cumulatif des nouveaux cas augmentait cependant. Mais bien sûr, cette situation où le nombre de nouveaux cas est en décroissance, c'est pas très bon pour faire la promotion de la lutte contre le sida, contre le VIH. Il y a des gens qui vont dire, ah ben, l'épidémie est finie maintenant, là, ça, c'est plus urgent. Et c'était difficile de convaincre les gens de l'urgence d'agir. Mais là, ce qui est important, c'est que le nombre de morts est encore assez faible, ce qui veut dire que nous avons encore une chance de prévenir la mort de des millions de personnes. Les données nous montrent qu'il y avait une décroissance du taux d'incidence. La prévalence, cependant, connaissait une croissance rapide. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une réelle décroissance du taux d'incidence parce que le nombre total des personnes testées restait le même. Donc, ça semblait une vraie décroissance de l'épidémie, un vrai déclin de cette épidémie. La situation varie d'une région à l'autre de la Russie, mais ce qui est important à noter, c'est que c'était surtout dans les zones les plus industrialisées que le plus grand nombre de cas était signalé. Et c'est une situation très sérieuse. Mais il reste quand même certaines parties, certaines régions libres de toute infection VIH. Donc, les chiffres principaux en matière de VIH-SIDA en Russie, ici, sur ce tableau, on peut voir que environ 1 million de Russes sont séropositifs, un chiffre estimé. En ce moment, le taux de prévalence dans la population adulte est environ de 1%, mais le nombre de mortalités de gens qui sont morts du VIH ou du SIDA, ce nombre reste assez faible. Donc, on peut voir que le VIH-SIDA progresse en Russie. La prévalence estimée au sein de la population adulte est environ de 1%, mais le nombre de morts occasionnées par le sida reste très faible, et il y a quand même une vraie possibilité pour nous d'intervenir pour sauver des millions de vies en utilisant des thérapies antirétrovirales. Et c'est intéressant du point de vue scientifique et du point de vue pratique aussi. C'est la saturation. Est-ce qu'il y a saturation et stabilisation ou non? Des tests routiniers nous ont montré que il y avait une décroissance dans l'incidence, mais des études sélectives nous montrent qu'il y a des grandes différences d'une région à l'autre. Ça passe de 1% de taux de prévalence chez les usagers de drogue injectée pour passer à 65%. Donc, il y a une possibilité de voir de nouvelles épidémies dans certaines régions. Donc, bien sûr, il n'y a pas de signe de saturation chez les utilisateurs de drogues injectées dans plusieurs régions russes. Mais bien sûr, il reste un risque de transmission VIH intensif, surtout chez les populations qui sont jusqu'à présent passablement épargnées. Mais est-ce que cette épidémie est une épidémie propre aux utilisateurs de drogues injectées, ou est-ce que c'est plus généralisé? Qu'en est-il de la transmission par contact sexuel? Les hommes ayant des contacts sexuels avec les hommes, on peut voir ici, parmi la population testée, le taux d'infection était très bas pendant un certain temps, mais vous voyez une augmentation depuis 5 ans, une augmentation marquée. Donc, les hommes ayant des contacts sexuels avec les hommes maintenant sont à se voit beaucoup plus en position de risque pour ce qui est de la transmission du VIH. Peut-être que ce groupe a été oublié lorsqu'il s'agit de campagnes de prévention et de campagnes de prophylaxie. Pour ce qui est des femmes enceintes, on peut voir qu'il n'y a pas d'augmentation importante du taux d'incidence au sein de ce groupe.
Les risques facteurs principaux, on peut voir que c'est une augmentation des chiffres. Les risques principaux sont les contacts sexuels et hétérosexuels, nous pouvons voir que la proportion de femmes qui sont infectées grandit. D'autres données à propos de la transmission hétérosexuelle à partir des tests sur les professionnels du sexe, mais c'est difficile de faire des conclusions parce qu'un bon nombre de ces travailleuses sont des toxicomanes également. Et on incrimine la transmission sexuelle, mais ils sont aussi toxicomanes. C'est difficile. La quatrième conclusion, il y a de nombreuses preuves d'augmentation de la transmission hétérosexuelle en Russie. Cependant, il n'y a pas suffisamment de données pour confirmer que la seconde vague de grande ampleur a déjà commencé. Donc, nous avons un peu de temps pour travailler et prévenir. Donc, nous avons cette course de pronostic. Où en est l'épidémie maintenant? Certaines régions sont là, d'autres sont là. Donc la période de 2 ans, il y a 2 ans de délai entre l'infection et le diagnostic, l'information souvent en moyenne en Russie. Donc, bien sûr, il est nécessaire de travailler. Malheureusement, pendant de nombreuses années, les activités du gouvernement russe L'action du gouvernement russe n'a pas été sérieuse. Et la période 2001-2005, donc, était une période de 5 ans de programmation, intensive de programmation, de combat contre le VIH-SIDA en Russie. Donc, alors, il y a de bon nombre d'organisations engagées. Vous les voyez ici, de nombreux individus. On a donc fait du travail de promotion pour la lutte contre le VIH-SIDA. Et on a aussi participé de façon réussie à cette procédure. Et en résultat, les fonds annuels pour les programmes de VIH-SIDA en Russie ont été multipliés par 10 en 2006. 200 millions de dollars. C'était 200 millions de dollars. 200 millions de dollars maintenant. C'est de l'argent du gouvernement fédéral. Un prêt de la Banque mondiale. De l'argent qui vient du Fonds mondial. Il y a d'autres subventions, des subventions internationales, des organisations donatrices. Si nous avons maintenant la possibilité d'organiser une lutte efficace contre l'infection du VIH, par le VIH. Mais malheureusement, c'est peut-être la dernière occasion de prévenir la dissémination du VRH, du VIH et la généralisation de l'épidémie en Russie. Et j'espère que tout le monde participera à la prévention du VIH, pas uniquement dans leur propre pays, mais aussi ailleurs. Merci pour votre attention, merci Dr Potowski. Nous sommes très heureux de voir que des ressources financières sont mises en place pour combattre la pandémie. Maintenant, nous avons le Dr Rajesh Kumar, qui est professeur et président de la faculté de santé publique à l'Institut de troisième cycle de l'éducation et de la recherche médicale à Changdira en Indiane. Merci, docteur Kansivira. Alors, mes amis, avant de discuter, j'aimerais exprimer ma gratitude aux organisateurs de cette conférence qui m'ont donné l'occasion, la possibilité de partager mes points de vue avec vous dans cette session très extrêmement importante. Cette session est importante parce qu'elle est tenu en mémoire d'un docteur extraordinaire, docteur Luzini Tisdale, qui a choisi de travailler dans une situation très difficile parmi des gens qui avaient vraiment besoin de lui en Afrique, un continent qui a été et continue à être le plus affecté par le VIH, même si de beaucoup de travail a été fait en Afrique et que nous voyons que dans certains des pays, le VIH est en régression. Mais dans l'ensemble, la situation continue à être grave en Afrique, mais au cours du fil des ans, nous avons vu une augmentation slante du VIH en Asie, et l'Indien n'est pas l'exception. Ça a commencé, le premier cas a été fait en Chennai en 86, et depuis, le virus s'est disséminé progressivement pour commencer par les travailleurs sexuels à Mumbai, et ensuite aux toxicomanes dans la partie nord-est du pays. Enfin, il s'est disséminé à la population générale. En 98, le sud du pays, les quatre États, nous avons une épidémie bien développée de population générale. La situation continue. De plus en plus de gens sont infectés par ce virus au fil des ans. Nous avons observé que, initialement, la dissémination était rapide, mais depuis 2002, ou particulièrement 2003, on observe une stabilisation, un plateau, et nous n'ajoutons pas, il n'y a pas d'ajout de trop nombreux cas de VIH, malgré qu'il y ait beaucoup de discussions sur ces faits. L'Organisation de contrôle du SIDA estimait que nous avons environ 5,1 millions de gens infectés. UNS donne des chiffres un peu plus élevés, 5,7, y compris des enfants. Il y a des gens au-dessus de l'âge de reproductif, mais néanmoins, il y a eu une augmentation. Et au lieu de rentrer dans le débat sur les chiffres, je pense que nous devrions nous concentrer sur les tendances. Cette information vient des sites de surveillance sentinelle du VIH, répartis dans le tout pays entre différents groupes, les femmes enceintes, les toxicomanes, les homosexuels, les professionnels du sexe, les gens augmentent de 98 à 2005 et ils vont augmenter encore cette année. Ces six tests, plus de 300 000 hommes et femmes. C'est le chiffre le plus important testé dans les sites sentinelles au monde. Et cette information doit être utilisée pour tracer l'épidémie, au lieu de discuter sur les chiffres, dont la grande question est, quelles sont les tendances ? L'incidence est la meilleure mesure des tendances pour les nouvelles infections annuelles, mais nous n'avons pas de méthode valide. C'est appliqué dans les grandes zones. Ensuite, ce que nous avons, l'estimation de la prévalence chez les jeunes adultes, ça peut être une bonne alternative pour l'incidence du VIH. C'est ce que nous avons fait entre 2000 et 2004. Nous avons analysé les données pour les femmes enceintes entre 15 et 24 ans et les hommes qui ont visité des cliniques STI entre 20 et 29 ans. L'âge, la résidence pour ces hommes. Et nous analysons dans l'intérieur du pays, divisé en deux, les États du Sud. Nous avons une incidence de plus de 1,5%. Et dans le nord, faible prévalence. Et dans le nord-est, l'épidémie est pratiquement due aux toxicomanes. Et ce que nous voyons est que pour ceux qui vont dans les cliniques STI, il y a eu un déclin de la prévalence du VIH de 20,9 à 13,3 dans les États du Sud. Et c'est un déclin significatif. Donc, dans l'État du Nord, le problème continue à être plus ou moins similaire. Il n'y a pas vraiment d'augmentation ou de déclin dans l'État du Sud. De façon similaire pour les femmes enceintes, nous voyons un déclin régulier de 1,7 à 1,1. Le Nord continue à avoir une faible prévalence chez les femmes enceintes. Il n'y a pas vraiment d'augmentation ou de déclin de la prévalence. Maintenant, nous avons analysé aussi que ces déclins... Qu'est-ce qui est responsable de ce déclin ? Lors d'une analyse, dans les districts, nous avons des interventions ciblées, 58 discrètes et 25 discrètes avec des interventions non ciblées. Ça, c'est pour les États du Sud. Les districts où il y avait des interventions ciblées, il y avait un déclin régulier. Les comportements sexuels entre les hommes et les femmes, environ 10% des hommes en Inde, ils ont des relations sexuelles avec de nombreux partenaires, alors que les femmes, c'est très faible, 2%. Ce sont des données de 2001 et 2002. Et il y a des différences significatives entre le Nord et le Sud. Les partenaires multiples... Mais il n'y a pas de différence vraiment chez les femmes. Sur 2% des femmes ont de partenaires multiples. Et donc il y a beaucoup de sexe commercial. Alors pour résumer, les tendances VIH en Inde, il y a un déclin dans le sud, mais il n'y a pas vraiment de changement dans le nord. Et ces changements... Nous pensons, c'est l'utilisation par les maris des travailleuses du sexe, moins souvent ou avec... Non. On a aussi des programmes d'intervention par les pères. Ces interventions se sont faites dans tout le pays. Enfin, nous avons aussi plusieurs services dans différentes parties du pays qui montrent que l'utilisation des préservatifs chez les travailleuses du sexe, même une enquête faite, on a une haute utilisation. Mais voyez, les trois derniers mois, les chiffres ne sont pas aussi élevés qu'il y a de l'utilisation des préservatifs, mais pas de façon régulière. Mais néanmoins, dans une grande proportion des travailleuses sexuelles, le préservatif est utilisé de plus en plus. Donc, quelles sont les leçons apprises ? Il faut une surveillance. À faible coût, nous a donné beaucoup de données et on peut tracer l'évolution de l'épidémie. Il n'y a pas vraiment d'épidémie homogène dans les sous-populations et c'est les infections sont ciblées par le sexe, mais dans certaines régions, c'est la toxicomanie. Nous avons aussi appris que l'intervention ciblée, SMASH, particulièrement nous avons vu le déclin dans le sud, donc nous avons le sentiment que les interventions fonctionnent et nous devons le faire de plus en plus et dans plus de zones. Est-ce que nous sommes sur la bonne piste ? Oui, enfin, les États du Nord ont une faible prévalence. Mais les moyennes, où il y a des fortes prévalences, et bien sûr, il y a des zones qui sont où l'on peut s'inquiéter, ils disent que le nord de l'Inde est à faible prévalence, donc les ressources vont au sud, parce que c'est là où les problèmes sont. Dans le nord-est, il y a une épidémie qui se diffuse dans les autres parties, ART qui sont lancés. Nous devons donc transférer les dépenses dans le système de santé pour les traitements antirétroviraux. Donc voici les questions. Et l'extension de l'ART, environ 60 cliniques. Proche, les chiffres vont augmenter, les cliniques vont être environ 100 et les gens en traitement ARV, ils environ 100 000. Les services sont faits au niveau du district, ils doivent être faits au niveau du sous-district et nous vont intégrer les services de soins avec d'autres programmes, les services de soins à la tuberculose. Les défis clés dans le pays, c'est un grand pays et très diversifié. Il faut surveiller les programmes. La surveillance du programme est difficile et ça reste un gros défi. Donc, les autres salons, les défis clés, il faut mieux comprendre le sexe commercial. Et la toxicomanie, mais nous pensons que les estimations sont trop faibles. Et nous devons, pour mieux connaître la taille et l'emplacement de ces patients, avoir une couverture à 100% pour les interventions ciblées. Ça reste un défi. Et enfin, le défi, comment s'améliorer notre surveillance et l'utiliser pour faire des analyses, pour informer les programmes et avoir mieux se concentrer et mieux cibler les patients. Il faut lier les surveillances biologiques pour le VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Nous devons mettre en place des biodépôts de VIH, pouvons utiliser cette information plus tard lorsque de meilleures techniques seront disponibles pour mieux suivre l'épidémie. Alors, l'incidence de VIH, on a des tests, il faut savoir si on peut utiliser ces tests pour suivre l'épidémie. Alors, la stratification des risques avec une combinaison des marqueurs de maladies sexuellement transmissibles. On a plus de 600 districts et chaque district représente environ deux populations de 2 millions. Donc il faut la formation des agents qui peuvent utiliser cette population pour mieux cibler les programmes. Alors, d'autres carences en Inde, de l'information sur la mortalité liée au sida, nous avons un système d'information qui peut nous donner de la mortalité, mais nous n'avons pas de système qui nous donne l'OMS. L'OMS estime qu'environ 6,2% des décès sont causés par des maladies liées au sida. Alors que maintenant nous travaillons avec RGICGHR, les estimations préliminaires qui montrent que le sida représente seulement 1%, 1,0% pour les causes de décès, mais ce sont des mesures qui utilisent l'information. Cette information est lue par les médecins pour avoir. Si on a par exemple des lymphomas et de la fièvre, alors les chiffres montent alors à 4,6, ce qui est inférieur aux estimations de l'OMS. Nous devons suivre la mortalité dans ce pays et nous avons beaucoup de prédictions faites pour l'Inde et certaines prédictions suggèrent que l'augmentation serait très rapide. La projection de l'UNAIDS, les limites supérieures et inférieures, nous avons peut-être l'épidémie suit à peu près les faibles estimations de l'UNAIDS et nous avons nos propres estimations et il semble que l'épidémie augmente lentement, mais si elle continue à augmenter particulièrement dans le nord, nous allons peut-être avoir 30 ans, 40 millions de nouveaux cas dans les 20 prochaines années. C'est un gros problème pour nous, bien sûr. Les possibilités, nous avons une bonne capacité organisationnelle au niveau public, privé et les ONG, et nous avons une approche décentralisée. Nous avons aussi un meilleur engagement au niveau politique et financier. Il y a beaucoup de soutien des organisations internationales dans ces efforts de lutte. Enfin, je dirais que bien que NACO a conçu un bon programme et qu'on a des stratégies mises en place il lance un nouveau programme, en fait. Mais ce que je peux dire est que nous devons nous concentrer sur la surveillance parce que cela nous donne de la planification basée sur les preuves et nous devons continuer notre programme de surveillance avec plus de rigueur afin de ne pas perdre cette possibilité. Le taux de prévalence est pour l'instant faible, mais si nous mettons en place de bons programmes de prévention, nous pouvons vraiment contrôler la dissémination de la maladie en Inde. Merci beaucoup de votre attention. Merci, docteur Kumar. Je suis heureux que tu sois optimiste par rapport au futur de l'Inde. Maintenant, j'ai le plaisir de porter la parole au docteur Sheila Bazer, qui est agente en chef de la santé pour la province de l'Ontario et aussi sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Soins à long terme. Et de Dr. Bazer était agent de santé dans la ville de Toronto depuis 17 ans avant de rejoindre le gouvernement provincial en l'an 2000. Et elle est connue pour ses actions et interactions autour du SRAS. Elle ne veut pas que je le mentionne, malheureusement. Elle a une maîtrise en santé communautaire et épidémiologie. Et elle est un fellowship dans d'autres domaines de la santé. Merci, Dr. Bazine, pour faciliter cette session. Merci. Nous avons entendu 3 conférenciers à propos des épidémies émergentes en Chine, en Inde et en Russie. Donc, je veux demander aux membres de l'auditoire qui voudraient faire des commentaires ou poser une question, de venir au micro. Je sais que le micro 4 est le micro préférentiel pour le personnel de l'audiovisuel. Alors, numéro 3, en fait, juste devant moi, juste en dessous des spots lumineux. Et je vais répéter les questions pour l'auditoire. Si la question n'est pas entendue à cause de la complexité et du volume, je ferai de mon mieux pour la reformuler. Alors, pendant que les premières questions arrivent, tous les trois, je dirais que les trois conférenciers ont vraiment, se sont vraiment concentrés sur les sous-populations à risque et ont souligné l'importance de l'information comme outil très important pour mesurer l'ampleur du problème et mesurer l'efficacité des interventions. Et bien sûr, l'information est essentielle, mais bien sûr, l'information est difficile à collecter pour avoir de l'information de qualité et de façon homogène. Mais nous avons, quoi qu'il en soit, des thèmes à réflexion. La question, étant donné, ce sont les compagnies pharmaceutiques indiennes qui soutiennent Cipla, tous les antirétroviraux dans le monde. Donc comment est-ce que les Indiens pourront avoir accès aux antirétroviraux alors que tous ces médicaments partent ailleurs? Je pense que le problème est l'infrastructure. Nous devons avoir de l'infrastructure partout. Cela signifie formation des médecins, mettre en place les laboratoires. Cela a été fait. C'est fait. Comme je l'ai mentionné, les gens qui vont recevoir des traitements antirétroviraux vont vite multiplier par 3. Et le nombre de centres augmente. Maintenant, nous pouvons vraiment. Le programme va être mis en œuvre. Il n'y a pas de difficulté majeure. Mais dans un grand pays comme l'Inde, il faut se préparer, il faut former, préparer les laboratoires, et ainsi de suite. Merci. J'ai une question pour le docteur Dou. Les dons de plasma étaient un problème important en Chine. Mais lorsque nous regardons les statistiques de l'épidémie chinoise, ces groupes n'apparaissent pas. Je pense que c'est très important parce que ce n'est pas un phénomène chinois. Ça s'est fait au Mexique dans les années 90, en Inde au début des années 90 et au milieu des années 90 en Chine. Pourquoi cela n'apparaît pas dans les statistiques internationales sur le VIH-SIDA comme facteur de risque pour la transmission du VIH? Quel est le facteur de risque? Les dons de plasma. Pour clarifier votre question, pourquoi? Ma question, lorsqu'on regarde les statistiques de UNAIDS sur la façon dont les gens sont infectés, les dons de sang n'apparaissent jamais. Alors qu'en fait, c'est un groupe important. Je me répète, ça s'est fait en Inde et au Mexique. Pourquoi est-ce que le don de sang n'apparaît pas comme facteur de risque? La question est pourquoi les dons de plasma n'apparaissent pas comme facteur de risque au niveau international, particulièrement dans une présentation, un exposé concernant la Chine? Je parle des dons de plasma payés, rémunérés. Je pense qu'à cette époque, pour l'instant, nous essayons de bloquer le VIH étranger d'entrer dans la Chine. Donc, nous avons des programmes de quarantaine. Un contrôle des frontières. nous pensons que le VIH-Sida n'est pas un problème chinois, mais un problème extérieur qui rentre à l'intérieur. Nous avons mis en place un programme dans les grandes Chines, comme Pékin, Canton, Shanghai. Et soudainement, nous voyons une épidémie qui se passe dans le coin sud-ouest. Nous étions si surpris. À cette époque, nous n'avons pas reconnu que le don de sang comme un risque de facteur. Mais ce n'est qu'en 94 et 95 que nous avons remarqué le problème. Alors le gouvernement chinois a pris une action immédiate en fermant tous les centres de collecte du sang. Il a fallu un an pour s'ajuster. Et également, le gouvernement chinois a instauré une loi. Cette loi crée... on a un dossier. Ça a pris un an pour avoir un dossier, pour avoir une loi mise en place en un an. Donc c'est une leçon que nous avons apprise très vite, mais très durement. Question suivante. Alors, l'Université de New York, c'est une question pour le Dr Kumar. J'ai déjà vu cela dans les données indiennes. Il semble que dans le sud, l'épidémie est beaucoup plus prononcée, à part que l'état de Korlai. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Est-ce que l'Inde peut apprendre l'expérience de Karula? Est-ce que ça peut être utile pour l'Inde et d'autres pays?
Je crois que vous avez raison. Tout est tellement beau au Kerala. Le taux de mortalité infantile est meilleur que celui de bien des pays développés. En fait, le taux de mortalité infantile, c'est de 15 par 1000 naissances. C'est tellement faible. Toutes les statistiques sont très bonnes au Kerala. Et la raison, c'est que la population a un niveau d'instruction très élevé. Et puis, il y a une tradition d'équité sociale au Kerala. Il y a tellement de facteurs au Kerala qui fait que c'est un corps remarquable. Mais au Kerala, beaucoup de gens du Kerala émigrent vers d'autres pays. Il y a beaucoup d'émigration. Mais ils font attention. Peut-être que parce qu'ils sont instruits, ils utilisent des relations sexuelles protégées. Ce n'est pas que le travailleur sexuel n'existe pas au Kerala, il existe. Mais peut-être que le taux d'utilisation du condom est-il plus élevé. Mais vous avez raison, il faut étudier les choses davantage et obtenir plus d'informations et s'en servir dans le reste du pays. Merci. Prochaine question. Mon nom est Amy Bishop. C'est une question pour le Dr Prokofsky. J'ai été très intéressé par vos projections sur l'épidémie en Russie. Et comme vous l'avez mentionné, ces projections sont plus optimistes que les projections précédentes. Je suis certain que les gens ici espèrent que c'est bel et bien le cas. Pourriez-vous expliquer davantage la raison pour votre optimisme relatif? Particulièrement, si on prend le fait que les thérapies de substitution demeurent illégales en Russie, d'autres méthodes de réduction des préjudices sont fréquemment interrompues ou empêchées d'offrir tous leurs avantages à cause des abus de la police et des interventions. Il y a également un milieu qui est parfois hostile pour les ONG et les ONGI. Et puis la situation avec la tuberculose dans les prisons. Je comprends que votre présentation ne vous ait pas abordé tous ces points en détail, mais peut-être pourriez-vous expliquer en termes plus généraux la raison pour votre optimisme. Je ne suis pas optimiste du tout. 1,5 million de morts en Russie, c'est beaucoup. C'est plus qu'un million et demi de morts pour l'Inde. La Russie est dans une situation de dépopulation présentement. Et si, bien sûr, s'il y a moins de cas, ce sera beaucoup mieux. De cas d'infection, ce sera beaucoup mieux pour la Russie.
optimiste.
Alors, je ne suis pas optimiste. J'essaie d'être aussi précis que possible, sans aucun intérêt politique de ma part. Merci. Prochain. Est-ce que je peux poser une question à chacun des panélistes? Commencez avec un, puis on verra. La première question s'adresse à M. Wu. Je me demandais, c'est une question très brève. Les problèmes que vous avez avec le traitement et la resocialisation des consommateurs de drogues injectables dans les contextes urbains, j'espère que les tests sont volontaires et l'insertion est volontaire. Comment appliquez-vous ces programmes? Et s'il y a un conflit d'ordre juridique en ce qui concerne la possession et l'utilisation de la drogue, comment est-ce qu'on traite la situation? Donc la question est, comment les consommateurs de drogues injectables s'impliquent-ils dans le développement et la mise en œuvre des programmes, surtout s'ils sont en conflit avec la loi? Au début, et nous faisons très attention, au cours de la première année, nous n'avons mis sur pied que 4 programmes de maintenance et avec des critères très stricts. Il fallait correspondre à des critères très stricts pour participer au programme. Ensuite, nous avons reçu une demande énorme. 2 des critères que nous avions, c'était que les gens doivent se présenter au moins 2 fois à un centre de détoxification ou à un centre où ils peuvent accéder. Beaucoup d'utilisateurs de drogue n'ont jamais été dans un centre de détoxification. Et puis, on veut également que les gens aient un taux d'observance sérieux. On a reçu beaucoup de critiques à propos de cela, puis on a révisé nos critères. Et les utilisateurs qui sont véritablement très, très dépendants sont maintenant admissibles. Et s'ils habitent dans un même lieu pendant 6 mois. Il y a une énorme demande pour participer à ce programme de substitution du méthadone, parce que ceci réduit considérablement le fardeau financier. S'ils utilisent l'héroïne chaque jour, c'est le coût de 300-500 yuan chinois. S'ils participent à un programme de traitement avec le méthadone, ça ne coûte pas plus que 10 yuan chinois. Donc, c'est de réduire considérablement les exigences financières pour l'utilisation des drogues, et ceci améliore la qualité de la vie. Et c'est un programme volontaire, non pas obligatoire. La loi dit simplement, plutôt cette année, on a introduit une loi spéciale sur le sida. Dans cette loi, il est dit très précisément que les programmes offrant de la méthadone sur une base communautaire est un programme efficace pour contrôler l'épidémie du sida parmi les utilisateurs de drogues injectables. Il est administré conjointement par l'administration de la drogue et de l'alimentation, et puis la police est... Écoutez, je vais vous... comme il y a beaucoup d'intervenants, je voudrais vous demander de revenir plus tard si nous avons le temps. J'ai une question pour le Dr Camar. Dr Camar, j'ai remarqué que parmi vos défis centraux, vous n'avez pas mentionné le problème de l'inégalité entre les sexes. Probablement pas. Ce serait un gros sujet, d'une part. Mais je me demandais si vous pourriez me parler un peu de votre connaissance des programmes de prévention primaire plutôt que de simplement dire qu'on cible des populations à risque élevé ou des sous-groupes. Par exemple, pour que les femmes puissent négocier leur propre comportement sexuel protégé, quel genre de travail fait-on en Inde pour changer la norme sociale, ou c'est correct pour elles de demander à leur mari de porter un condom? Vous comprenez ce que je veux dire? Non, avec programme universel qui cible la population générale et qui réduit la stigmatisation et qui autonomise les femmes. Je suis d'accord avec vous, il faut protéger les femmes contre leurs maris. Les maris la contractent le virus parce qu'ils visitent des travailleurs du sexe. Pour empêcher les femmes d'attraper le VIH, il faut protéger les hommes et les empêcher de l'obtenir des travailleurs du sexe. Donc les programmes, pour l'instant, ciblent les travailleurs du sexe afin d'empêcher la transmission au mari, et ceci à son tour protège la femme. Mais je suis d'accord avec vous que la question du genre est un problème plus large et que l'autonomisation des femmes est une composante importante. Il y a d'autres programmes dans le pays, tels que les programmes du service de l'affaire de l'aide sociale, qui s'attaquent au problème d'une manière plus générale, de sorte à ce que les femmes puissent affirmer leurs droits. Mais présentement, les communications entre mari et femme ne sont pas ce qu'elles devraient être. Merci. Prochaine question. Mon nom est Mary Wong, de l'Université de Philadelphie. J'ai une question pour tous les panélistes. Envisagez-vous que vos pays puissent avoir un plan plus général pour rejoindre les populations les plus vulnérables? Envisagez-vous que vos pays pourraient créer un cadre juridique et des droits de la personne pour améliorer l'accès aux soins? Ça prend certaines populations, par exemple les travailleuses du sexe. Donc la question, c'est si les présentateurs sont au courant de lois ou de politiques qui enchâssent les droits des populations marginalisées l'accès au traitement. Le gouvernement chinois a des politiques qui garantissent que le programme est accessible pour aider les activités de prévention et d'offrir un traitement pour les groupes marginalisés, y compris les utilisateurs de drogue et les travailleurs du sexe, les hommes qui ont des relations avec les hommes et les immigrants. Mais on fait face à un problème parce que les gens se déplacent beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, le défi qu'on fait, c'est par exemple, de travailler avec les hommes, des relations sexuelles avec les hommes, et puis il y a également le problème des populations migrantes qui se déplacent de ville en ville. On n'a pas d'obstacle politique, on a un défi objectif. Merci. En Russie, nous comprenons le problème des populations vulnérables, le problème qu'ils ont accès au traitement. C'est pourquoi on demande au Fonds mondial d'offrir de l'argent, particulièrement pour le traitement des populations vulnérables. Et il y a également un autre projet axé sur les activités de prévention parmi ces populations. Donc, on travaille fort dans ce domaine. En Inde, il y a un débat sur la façon de réformer la loi pour protéger les droits des populations vulnérables. Il y a trois projets de loi qui sont débattus. Un concerne la violence contre les femmes et la façon dont les femmes peuvent avoir recours à leurs droits. Deuxièmement, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et puis un autre projet de loi sur les travailleurs du sexe commercial et comment on peut empêcher le trafic sexuel sans nuire aux femmes. Alors ces trois, beaucoup de travail s'est fait sur les trois fronts dans le domaine juridique. Merci. Pour économiser du temps, nous allons accepter seulement deux autres questions. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens déçus. Mais écoutez, n'hésitez pas à venir à l'avant par la suite pour discuter avec les conférenciers. Nicole Simmons de Johns Hopkins University. Une question pour les trois panélistes. Vos trois pays font face à une épidémie majeure au niveau des utilisateurs des drogues injectables. Monsieur le Dr. Wu, dit comment vous aviez contré cette épidémie, à la fois en protection contre le VIH-SIDA, puis également en offrant des programmes alternatifs pour les utilisateurs de seringues. Alors, j'aimerais commencer par le Dr Pokowski. Nous avons beaucoup de programmes de réduction des préjudices pour les consommateurs de drogue. Bon, il y a le... Bon, on discute présentement du méthadone. Et comme je vous ai dit plus tôt, nous avons des argents spéciaux pour le traitement des consommateurs de drogue. Nous avons des sommes qui viennent du Fonds mondial. En Inde, il y a maintenant une politique officielle pour réduire les préjudices. Des programmes d'échange des seringues ont été introduits au pays dans différents secteurs. Dernière question. Merci, Dr. Wu, pour votre bonne présentation de la situation en Chine. Mon nom est Barbara Pillsbury. Et ma question concerne les populations minoritaires en Chine, les minorités en Chine. Les données récentes montrent que peu près un tiers des infections sont dans les populations minoritaires, même si ces minorités ne représentent même pas 10% de la population totale en Chine. Étant donné que la Chine a traditionnellement abordé le VIH comme étant un phénomène médical, y a-t-il des efforts novateurs pour travailler avec les populations minoritaires ou avec les organisations à Beijing ou dans les provinces qui représentent ces populations minoritaires? Merci pour cette question. Si on regarde l'épidémie en Chine, elle est en fait diversifiée. Premièrement, il y a eu l'épidémie provenant présentement des tensions de placement. La majorité des gens touchés sont des Han. Si on regarde au Guangxi, surtout aux premières étapes, la majorité des gens infectés, plus de 90%, font partie de groupes minoritaires. On a mis sur pied un comité de travail et le commissaire pour les populations, pour les minorités travaille dans ce programme. Dans Qingguangqing à Guangxi, il y a un problème qui cible les minorités. C'est une de nos priorités. Et surtout pour le Xinjiang et le Yunnan. Donc, nous continuons à travailler sur le problème. Merci. Merci à tous nos conférenciers et à ceux qui ont posé des questions, tant ceux qui ont réussi à les poser que ceux qui y attendent toujours. Et donc, merci au Dr Wu, Dr Pokowski et au Dr Kumar pour avoir partagé avec nous l'information la plus récente de vos trois pays. C'est un aperçu très intéressant et les questions et réponses ont été très utiles. Remercions nos conférenciers. Et merci également au Dr Cassavera pour avoir partagé son temps avec nous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite encore à tous une bonne conférence.